Sport. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mondial Sport, seconde période du week-end. Une demi-heure pour évoquer les temps forts de l'actualité sportive, le bonheur d'Iga Świątek et les larmes d'Ons Jabeur à l'issue de la finale féminine de l'US Open de tennis. La numéro 1 mondiale polonaise a fait plier la Tunisienne, encore passée de peu, à côté d'un premier sacre en grand chelem. Mais pas de quoi entamer sa popularité au pays où sa réussite et sa personnalité ravissent les sponsors qui ont misé sur elle. Les championnats européens de football, on s'arrêtera ce soir sur la Serie A et notamment le duel à distance du moment entre Naples et l'Atalanta Bergame. En Afrique, la suite du premier tour au préliminaire aller de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Un ancien espoir du football belge devenu vainqueur du Tour d'Espagne cycliste. Oui, incroyable destin de Remco Evenepoel qui remporte son premier grand tour à 22 ans, à la grande joie de ses compatriotes qui attendaient cela sur la Volta depuis 1978. Enfin, détour par l'Algérie pour un bilan des championnats d'Afrique de tennis de table. Le pays hôte s'en sort plutôt bien en termes de médailles dans une discipline traditionnellement précarée de l'Égypte.
Ladies and gentlemen, your 2022 US Open Women's Champion, Iga Świątek.
C'est dit, la patronne du circuit, c'est bien elle, Iga Świątek, vainqueur de son troisième trophée du Grand Chelem sur le cours Arthur Ashe de l'US Open de tennis à New York, à l'issue d'une finale où il y avait en face une joueuse prête à vivre un rêve tout proche de se réaliser déjà il y a 2 mois à Wimbledon. Mais une fois encore, Ons Jabeur a été rattrapée par l'enjeu. La Tunisienne, vite pressée par son adversaire dans le premier set, nerveuse, a pu rééquilibrer les débats dans le second. Mais la Polonaise s'est finalement imposée 6-2, 7-6, devenue numéro 1 mondial d'abord par la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty en mars dernier. Świątek a largement montré depuis qu'elle ne l'était pas par hasard. Ons Jabeur n'a pas tout perdu puisqu'elle redeviendra officiellement demain la deuxième meilleure joueuse du monde. Mais forcément, en sortant du cours, son sentiment était facile à deviner lorsque différents médias français, dont notre confrère de Radio France, Fabrice Abgral, l'ont interrogé.
Triste, un peu déçu, mais voilà, beaucoup d'espoir pour les prochains grands chelems, pour les prochains tournois. Je sais que j'ai tout donné à un certain moment. Elle jouait incroyable, mais c'est Iga qui joue dans les finales, elle joue comme ça. J'ai beaucoup à apprendre de cette finale sûrement, mais voilà, satisfaite que j'ai pu vraiment aller aussi loin. J'ai pu décrocher la deuxième place, décrocher une place pour les WTA Finals. Donc déjà, il y a beaucoup de positifs dedans. On va apprendre de cette finale encore une fois et on va revenir plus fort.
Le regret notamment, est-ce qu'il est sur le premier set justement? Elle rentre de manière extrêmement agressive. Toi, tu es peut-être un petit peu sur la retenue, un peu en dedans. Est-ce que le regret est vraiment là?
Un peu oui et non, parce que finalement, elle était hyper agressive. Elle jouait son meilleur tennis, elle frappait toutes les lignes. À un certain moment, c'était incroyable, même les statistiques, j'ai vu 92% sur une première balle. J'ai jamais vu ça sur un match de tennis. Donc, à un certain moment, je peux être dur avec moi-même, mais le plus sûr, c'est qu'après, j'ai pu renverser un peu la partie, ce qui était bien. Ça aurait pu être 6-2, 6-2, mais voilà, je suis très contente que j'ai pu faire ça. La prochaine fois, je peux renverser complètement la partie et gagner en 3-7.
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec vous, c'est que vous êtes très positive. On l'a vu en conf, vous êtes sûr de rebondir, vous visez ouvertement la place numéro 1. Ça, c'est votre trait de caractère.
C'est important parce qu'avant j'étais une personne très négative et ça m'affecte beaucoup et finalement je vois que je gagne rien de ça. Le truc c'est qu'avant la finale et pendant ce tournoi j'ai tout donné, j'ai fait tout à 100% et à un certain moment je peux plus faire, je peux faire mieux mais voilà, je vais apprendre de ça et ce qui me reste c'est d'être positif et je sais que je fais partie de ces joueuses qui vont gagner un grand chelem, mais voilà, ça va venir difficilement, mais ça va venir un jour, et je garde cette positivité pour vraiment être là et gagner ce putain de grand chelem, quoi.
Ouais, alors, justement, est-ce que ça vous met pas trop de pression, ça? Vous êtes sûr que vous allez gagner, etc. Donc, est-ce que ça vous met pas trop de pression à chaque fois que vous arrivez sur la dernière marche?
S'il n'y a pas de pression, je me relâche, je me connais. Donc il faut mettre beaucoup de pression. Il faut que je sois comme ça avec moi-même, un peu dur, tu vois. Un peu dur, dire que je dois gagner parce que je mérite ça. Sinon, si je dis « Ah, c'est pas grave, à la prochaine finale et tout », là, ça ne va pas le faire parce que je me connais. »
De ces deux finales perdues entre Wimbledon et celle-ci, la question n'est pas évidente, évidemment, mais est-ce que c'est peut-être la plus simple à digérer, entre guillemets, celle-ci? Est-ce qu'elle fait moins mal, plus mal que Wimbledon?
En fait, les deux vont faire vraiment mal. Wimbledon, c'était dur. Celle-là aussi, voilà, ça fait partie du tennis, malheureusement. Il n'y a qu'une seule gagnante, mais espérons qu'il n'y aura pas une troisième, quoi.
Juste une dernière question. Il y a un nouveau tournoi au calendrier.
Ouais.
En 3 semaines.
Ouais.
À quoi on peut s'attendre, hein?
Écoute, je suis là, je suis prête pour gagner ce tournoi parce que après tout, il y aura beaucoup de pression sur moi, mais je serai prête. Ça fait plaisir d'avoir un tournoi comme ça en Tunisie parce que ça montre qu'on évolue, que le tennis évolue en Tunisie. Et je suis vraiment contente qu'on est là, avoir un 250 000 et espérant un jour avoir un 500 000 et avancer pour vraiment inspirer ces jeunes-là parce que ça commence par là. Il y a des gens qui sont en Tunisie qui veulent me voir jouer en Tunisie. Donc voilà, c'est une belle opportunité.
Et comment vous allez faire pour vous concentrer ?
Là, vous savez, j'ai le mariage de mon frère la semaine prochaine, donc je vais danser un peu pour me relâcher et être prête avec ça.
Voilà, un petit moment de détente pour Ons Jabeur, qui participera donc, elle y a fait allusion, à un tournoi inédit dans le calendrier féminin, un Monastir du 3 au 9 octobre prochain. L'occasion de revenir une nouvelle fois dans son pays, comme elle l'avait déjà fait en juillet, après sa finale perdue à Wimbledon. Et il y sera encore très attendu par ses fans et aussi par ses sponsors. Ravi d'avoir investi sur une championne et l'image très positive. Notre correspondante Tamira Souilem est allée rendre visite à l'un de ses partenaires.
On va monter à l'étage.
À 5 minutes de l'aéroport de Tunis, les locaux de Talent, un cabinet de consulting informatique.
Alors, on est sur deux bâtiments.
Berjed Boussofara, son directeur général, nous accueille. Okay. À peine arrivé, qu'on tombe déjà nez à nez avec la championne de tennis tunisienne, Ons Jabeur.
On est au rez-de-chaussée, donc, et au niveau de vos ascenseurs, qu'est-ce qu'on voit ? Et
effectivement, à l'occasion de la venue d'Ons, de retour de sa finale magnifique à Wimbledon, on l'accueille ici. Et effectivement, on a un peu paré le site de ses couleurs et de son image.
Victorieuse à Madrid, finaliste à Rome et à Wimbledon, Ons Jabeur a été accueillie en triomphe par les 700 ingénieurs qui travaillent ici en juillet dernier. Berjed Boussofara a gardé précieusement des vidéos immortalisant ce moment.
Je la remets au début pour vous la commenter. Donc ça, c'est son arrivée. Tous nos consultants étaient là. On a monté un podium, on a aussi simulé un terrain de tennis. On a fait une photo de groupe au-dessus, sur le rooftop. C'était un moment de rencontre exceptionnel. On a reçu beaucoup de personnes de qualité ici, mais c'est vraiment une personne exceptionnelle de gentillesse, de modestie. Elle s'est dévouée pour signer tous les autographes, pour faire les selfies avec tout le monde.
À championne exceptionnelle, moyens exceptionnels. Au détour d'un couloir, nous rencontrons Senda et Mohamed Tahar, deux ingénieurs du groupe Talent. Spécialisés en intelligence artificielle, ils se sont amusés à préparer une petite surprise pour leur championne.
On a préparé un petit jeu de tennis. Elle a déjà testé le jour où elle est venue.
Comment ça fonctionne exactement ?
En fait, vous portez un casque MR, Mixed Reality. MR, ça veut dire vous pouvez superposer des objets virtuels dans le monde physique. Donc vous interagissez avec la raquette et vous pouvez tirer des balles. Donc c'est ça, elle a essayé ce jeu.
Donc ça veut dire qu'elle avait un casque sur la tête et une raquette dans la main, c'est ça ?
Oui, c'est ça, merci.
Et comment elle a réagi ? Comment ça s'est passé ?
Bon, ça lui a plu.
C'était un peu difficile pour elle, même si elle est championne. Mais elle a bien aimé.
Une championne plus à l'aise sur les courts et dans la réalité que dans le métaverse. Ce jour-là, la Tunisienne était accompagnée par une équipe de Netflix qui suit ses moindres faits et gestes. Un beau coup de pub pour Talent, qui va proposer à Ons Jabeur de prolonger son contrat de sponsoring.
Très concrètement, Ons Jabeur comme égérie, ça coûte combien ?
Non, je vais pas répondre à la question parce qu'on a une clause de confidentialité. Elle nous a dit, écoute, si je gagne un tournoi du Grand Chelem, si je suis en finale, si je suis en top 5, voilà, il y avait des success fees. Finalement, elle a été dans le top 5, donc on va payer les success fees du top 5. Et le contrat, il a épuisé toutes les success fees qu'on a mis comme ça en rigolant. Elle a vraiment, c'est ça ce qui est beau, elle n'a pas eu peur, elle a assumé son ambition et elle l'a affiché.
Femme d'affaires, semble-t-il avisée, Ons Jabeur est aussi connue en Tunisie pour son penchant pour le caritatif. Rénovation d'hôpitaux ou encore d'écoles, la jeune femme n'en finit plus de faire tourner la tête des Tunisiens et de ses sponsors. Amira Suilem, Tunis, RFI.
Des sponsors qu'elle reverra donc, notamment à Monastir, prochain moment symboliquement important pour Ons Jabeur, avant son dernier grand rendez-vous de la saison. Il y a fait allusion tout à l'heure dans son interview, le Masters féminin à Fort Worth, au Texas, du 31 octobre au 7 novembre. Pour l'heure, c'est la finale messieurs, totalement inédite, qui se dispute à l'US Open entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Norvégien Casper Ruud. Alcaraz a remporté la première manche 6 jeux à 4, mais Ruud mène dans la seconde 5 jeux à 2. Double perspective pour le futur vainqueur, un premier sacre en grand chelem et la première place mondiale.
Mondial Sport, votre rendez-vous sportif.
Allez, c'est le moment de chausser les crampons pour faire des tours de terrain. La séquence football européen sera surtout consacrée à l'Italie ce soir. Gros plan d'abord sur la sixième journée de Serie A avec évidemment Matteo Cioffi qui nous a rejoint. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Christophe.
Alors avant de parler des leaders, on revient d'abord sur ce match ce soir entre la Juventus Turin et la Salernitana. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux partout, certes, mais un scénario mais alors complètement fou dans le temps additionnel.
Tout à fait, il s'est vraiment passé tout. Alors le film, la Juve se fait piéger en première mi-temps par une Salernitana déchaînée qui joue en rapidité, agresse le porteur du ballon et après 45 minutes mène au score 2-0. Deuxième partie de jeu, la vieille dame se réveille et emmenée par son avant-centre Dusan Vlahovic, commence son assaut qui aboutit au but du 2-1 réalisé par le Brésilien Bremer. Et puis dans la deuxième minute du temps additionnel, l'arbitre accorde un pénalty au Bianconeri. Leonardo Bonucci se charge de tirer, le gardien repousse, mais sur la reprise, le défenseur de la Juve trouve la voie défilée. 2-2, c'est pas fini. 3 minutes plus tard, le Polonais Minik marque à son tour, mais l'arbitre refuse le but après avoir consulté la VAR qui confirme le hors-jeu toujours de Bonucci. Cette décision fait exploser la corrida sur le terrain. Bagarre entre joueurs, deux expulsions du côté de la Juve, Minik et Cuadrado, et une du côté de la Salernitana, un défenseur Fazio, à qui il faut ajouter celle du technicien Max Allegri. Après avoir trouvé la calme, l'arbitre donc siffle la fin du match à la 101e minute. De partout, tout le monde est satisfait et tout le monde est déçu.
Bah oui, malheureusement, en tout cas pour les deux équipes. C'est Naples finalement, Matteo, le principal bénéficiaire de ce week-end, sur une bonne dynamique. Hein, nette victoire sur Liverpool en Ligue des Champions cette semaine. Et hier, succès contre la Spezia, mais pour le moins laborieux, 1-0.
Oui, Christophe Laborieux est fortement voulu, car les Napolitains n'ont certainement pas eu vie facile face à cet adversaire, mais ils y ont cru jusqu'à la fin, comme confirmé par le but de la victoire arrivé à une seule minute du temps réglementaire grâce à la nouvelle recrue Giacomo Raspadori. Ce jeune attaquant italien est très attendu, surtout en ce moment, car l'équipe de Luciano Spalletti ne pourra pas compter pour au moins 4 semaines sur Victor Osimhen qui s'est blessé à la jambe face à Liverpool. Napoli qui donc a ramassé 3 points très importants, l'équipe est première au classement, et a aussi mis fin à la série de la Spezia qui, à Naples, s'était imposée dans les 2 saisons précédentes.
Alors Naples qui partage la tête du classement avec l'Atalanta, parce que Bergame a calé aujourd'hui à domicile face au promu Cremonese 1-1.
Oui, match très tactique, chose qui n'a pas bénéficié au spectacle. Pour les moments forts, il a fallu attendre le dernier quart d'heure lorsque les Bergamasques ont ouvert le score sur un coup franc du Néerlandais. Kopmeiner s'est dévié de la tête par son coéquipier, le défenseur turc Meri Demiral. Une action identique avait eu lieu une dizaine de minutes auparavant. Même coup franc, même déviation, cette fois du défenseur italien d'origine nigérienne, Caleb Okoli, qui touche visiblement le ballon avec la main. L'arbitre, justement, a annulé cette réalisation. Atalanta, qui en menant au score, a cru d'avoir surmonté l'obstacle, sans mettre en compte la réaction de la Cremonese, qui a aussitôt encaissé le but, a frappé à son tour avec son latéral défensif Emanuele Valeri, qui a profité d'un ballon repoussé par le gardien de l'Atalanta, Juan Musso, pour le placer avec son pied gauche dans le filet. 1-1, score final, rien à dire, c'est le juste résultat.
Merci beaucoup Matteo Cioffi. On précise aussi que l'Inter s'en sort à l'arraché face au Torino 1-0 et que le Milan AC a fait la bonne affaire sur la pelouse de la Sampdoria 2-1 en Espagne. Bah, tout va bien pour le Real Madrid, vainqueur de Mallorca 4-1. Les Merengues comptent 2 points d'avance sur le Barça qui avait fait le plein de points hier sur le terrain de la Lanterne Rouge Cadix 4-0. Septième journée Ligue 1. Deuxième défaite pour Lyon, battu 2-1 tout à l'heure à Monaco. L'égalisation du Camerounais Kartoko et Cambi n'aura pas suffi pour l'OL qui perd la quatrième place au profit de Lorient. Victoire des Merlus sur Nantes 3-2 grâce notamment au Burkinabé Dango Ouattara et au Malien Ibrahima Koné. Ce sont pourtant les Nantais qui avaient ouvert la marque dans le premier quart d'heure avec le Camerounais Ignatius Ganago. Carton de Rennes sur Auxerre 5-0 avec un premier but du Ghanéen Kamaldine Souleymana. Notez aussi le succès d'Angers à Montpellier 2-1 sur un pénalty décisif du Marocain Sofiane Boufal. Son compatriote Zakaria Aboukla, lui, a inscrit l'unique but de la victoire de Toulouse à Reims. Puis même chose pour l'Algérien Andy Delors pour Nice, qui l'a emporté à Monaco. L'Afrique, ben on y reste, parce qu'il y a un week-end consacré aux Coupes africaines. Et c'est Cédric Oliveira qui nous en parle. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Christophe.
On disputait notamment le premier tour de qualification à la Ligue des Champions. Et ça s'est bien passé pour l'ASEC Mimosa.
Oui, les Ivoiriens se sont imposés au Bénin face au FC Coton 2-1. Du coup, la qualification paraît bien engagée pour ces Ivoiriens, même si l'entraîneur de l'ASEC, Julien Chevalier, reconnaît que ça n'a pas été si facile.
On est qu'à la mi-temps de cette confrontation et on a été bousculé, on a fait une bonne entame mais l'égalisation rapide avec une situation litigieuse nous a peut-être fait douter et pendant une vingtaine de minutes on a été très moyen. Après on a réussi à retrouver nos bases en fin de première période déjà et en deuxième mi-temps ça nous a permis de refaire la différence. Maintenant c'était un premier match et on sent qu'on doit encore se roder, on a un effectif qui a beaucoup bougé et puis une préparation qui a été perturbée avec 10 joueurs absents pendant 15-20 jours. Donc il faut ramener tout le monde ensemble et retrouver la connexion. On a mis un petit peu de temps dans le match, mais finalement, on a retrouvé ça pour maîtriser la fin de match, mais il faut rester vigilant.
L'entraîneur de l'ASEC, Julien Chevalier, il était au micro de Félix Soundé Pépéripé.
De leur côté, les Béninois du FC Coton ont peut-être laissé échapper une belle occasion de déjouer les pronostics.
Et les joueurs de la ville de Ouidah ont bousculé cet ASEC en égalisant rapidement dans la partie. Les champions du Bénin en titre se sont bien battus, mais ils ont péché par inexpérience, selon leur entraîneur Victor Svinka.
On a vu un petit peu la différence entre une équipe qui avait un vécu, une expérience. Et nous, malheureusement, notre équipe, elle est en devenir. On est en train de bâtir une équipe. Les deux buts qui marquent, on peut dire que c'est presque deux cadeaux de notre part. Donc, après le reste, dites-moi quand est-ce mon gardien a eu des arrêts à faire. Zéro. Rien. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Pour nous, c'est sûr que bon, ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Donc, on va se préparer en conséquence. On ne va pas baisser les bras. On va y aller pour essayer de faire un résultat. Et naturellement, pourquoi pas essayer de se qualifier. Je pense que vous savez, à un moment donné, c'est pas parce que tu perds 2-1 au match aller que tout est perdu.
Victor Svinkar après la défaite donc au Bénin 2-1. Il restera un match retour dimanche à Abidjan et ce sera donc sur la pelouse de la SEC.
En revanche, mauvaise opération de l'AS Vita Club de Kinshasa.
Oui, les Congolais battus au Botswana par le Gaborone United 1-0. Et puis surprise aussi avec la défaite des Algériens de la JS Kabylie 1-0 également. Un partout entre les Togolais de l'AS Kara et les Mauritaniens du FC Nouadhibou. D'autres clubs sont bien partis pour se qualifier. Les Angolais du Petro Atlético, vainqueurs des Mozambicains des Black Bulls 3-0. Les joueurs d'Eswatini, du Royal Leopards face au Malgache du CFFA, un succès 3-2. Et puis victoire des Burundais du Flambeau du Centre 1-0 contre Al Ittihad. Enfin, les Éthiopiens de Saint-Georges ont battu Al Hilal Omdurman 2-1.
On joue aussi le tour préliminaire aller qualificatif pour la Coupe de la Confédération.
Alors, quelques résultats, je ne vais pas tous vous les données, hein, parce que sinon on en a pour toute l'émission. Tout est encore possible pour le Sporting Gagnoa. On va parler de ce club ivoirien après son match nul 0-0 au Liberia face au FC LICR. Et au contraire, ça s'est mal passé pour les Nigériens de l'AS Douane, lourdement battu au Nigeria par le Kouara 3-0, score très très lourd. Ça va donc être compliqué avant le match retour.
Voilà, de toute façon, vous aurez tous les résultats sur notre site rfi.fr, rubrique Afrique Foot, les matchs retour auront lieu les 16, 17 et 18 septembre, c'est-à-dire le week-end prochain.
Mondial Sport sur RFI.
C'est l'histoire d'un jeune homme parti pour embrasser une carrière de footballeur professionnel, mais qui a finalement pris le virage du cyclisme, enfourché un vélo et un beau destin. Il s'appelle Remco Evenepoel. Il a seulement 22 ans, alors qu'il jouait au club d'Anderlecht il y a encore 5 ans. Il a remporté ce dimanche la 77e Vuelta, arrivée au cœur de Madrid. C'est le premier grand tour au palmarès du leader de la formation Quick-Step, et surtout la fin d'une très longue attente pour le cyclisme belge, pour le plus grand bonheur de ses compatriotes venus célébrer leur champion dans les rues de la capitale espagnole. Sur place, le reportage de Pierre Chaperon.
44 ans que la Belgique attendait ça. Sur le paysage de lumière, lieu dit à Madrid de cette arrivée finale de ce Tour d'Espagne, Remco Evenepoel a de nouveau braqué les projecteurs sur le plat pays, un pays de vélo s'il en est. En témoignent les milliers de Belges qui se sont amassés le long de cette ultime étape dans les rues de la capitale espagnole. Dominique, 65 ans, arrivé dans la matinée depuis Charleroi, ne pouvait pas rater ça.
Aujourd'hui, la fête. Il faut quand même faire ce qu'ils font. 40 degrés, monter à 2500 mètres, il faut le faire. Il a dominé ça quand même, hein. Combien de jours, maillot rouge? 15 jours, 18 jours? C'est quand même pas mal, hein, 22 ans.
C'est le début d'une belle histoire.
J'espère pour lui. Ben, parce que ça passe vite, hein. Ça passe vite, hein. On est vite aujourd'hui au top et demain...
Après les titres de champion d'Europe et du monde chez les juniors, après la victoire dans Liège-Bastogne-Liège et par deux fois dans la classique San Sebastian, Remco Evenepoel, seulement 22 ans, écrit sur les routes d'Espagne une des plus belles pages de son histoire. Il faut dire que l'enfant de Schepdal, à quelques kilomètres à l'ouest de Bruxelles, avait fait du maillot rouge de la Vuelta son objectif. Lui qui avait connu une chute de 10 mètres de haut lors du Tour de Lombardie 2020 et avait abandonné au matin de la 18e étape, le Giro 2021, victime d'une défaillance. Pour Kevin, la trentaine, débarqué à Madrid hier depuis Mons, une ville à la frontière entre la Belgique et la France, cette victoire n'est pas un aboutissement, mais une confirmation.
Il est à l'aube d'une carrière incroyable, dans la lignée des Pogacar et des Bernal. Pour nous, c'est un peu comme une victoire de l'équipe de Belgique en Coupe du Monde. C'est la même chose. Non, on ne gagnera jamais la Coupe du Monde, mais on peut gagner un grand tour. Et avec Remco, ce qui est bien, c'est qu'il est tombé et il était en béquille il y a un an et demi. Il marchait à peine. Et là, aujourd'hui, il gagne le Tour d'Espagne et c'est incroyable.
Tout sourire sur le podium, chantant à gorge déployée l'hymne de la Belgique, Evenepoel aura globalement dominé son sujet dans cette Vuelta 2022, endossant le maillot rouge de leader dès la 6e étape, au sommet du Pico de Jano, lâchant dans cette montée le triple vainqueur de l'épreuve, Primoz Roglic. Une victoire dans le contre-la-montre de la 10e étape et une autre en haute montagne lors de la 18e étape. Seule une petite défaillance dans la Sierra Nevada avait laissé craindre que celui que l'on surnomme le petit cannibale ne pourrait pas l'emporter. Certains pourraient aussi penser que l'abandon de Primoz Roglic à la 17e étape lui a rendu la vie plus simple, mais le Belge, dès hier, savourait avec énormément d'émotion son succès.
Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps en ce moment. C'est énorme. Après toutes les critiques, tous les mauvais commentaires depuis l'année dernière, je pense y avoir finalement répondu. J'ai tellement travaillé dur et maintenant gagner cette Vuelta, ouais, c'est juste énorme. En fait, c'était une super année. Gagner un monument, l'emporter une nouvelle fois sur San Sebastian, gagner deux étapes et le classement général, et me marier cet hiver, je crois que c'est la meilleure année que je pouvais imaginer et souhaiter.
Insatiable, Remco Evenepoel ne veut pas s'arrêter là. Le Tour de France dès 2023, le Belge ne se l'interdit pas, comme il l'a déclaré à la télévision flamande, à condition que le parcours lui convienne. Dans tous les cas, il fera partie des favoris dans deux semaines pour les mondiaux de cyclisme en Australie. Chaperon, Madrid, RFI.
Et puis à une toute autre dimension, le Tour de Côte d'Ivoire a pris fin hier avec la victoire à Taabo d'un coureur du pays, Souleymane Traoré, à l'issue de la dernière étape remportée par un autre Ivoirien, Abou Sanogo. Souleymane Traoré devant ce classement général, le vainqueur sortant le Burkinabé Paul Dôme. Dernière séquence dans Mondial Sport, on va parler de tennis à nouveau, mais tennis de table. Les championnats d'Afrique de la discipline viennent de s'achever à Alger avec le constat immuable qu'il y a l'Égypte, un peu le Nigeria et tous les autres loin derrière. C'est simple, les Égyptiens ont raflé quasiment tous les titres, à l'exception du simple junior remporté par un Nigérian. Les autres nations se partagent les accessites et la moisson du pays hôte dans ce domaine a été plutôt bonne. Une médaille d'argent et 5 en bronze. De quoi satisfaire le directeur technique national de la fédération algérienne, Chérif Derkaoui.
Il y a une certaine satisfaction par rapport aux résultats obtenus, à savoir les 6 médailles dont une argent et 5 médailles de bronze. C'est un résultat très encourageant et amélioré par rapport à la dernière édition 2021 qui s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun.
Vous aviez fait uniquement 3 médailles de bronze.
Exactement, 3 médailles de bronze. Cette fois-ci, nos équipes nationales masculines et féminines ont fait une bonne préparation, des stages, plus d'une trentaine de stages, ainsi que des compétitions amicales de préparation et des stages en Algérie à l'étranger. Et après les Jeux méditerranéens, aussi, il y avait une satisfaction vu le rendement des athlètes. On n'a pas obtenu de médailles, mais Mehdi Bouloussa s'est incliné en quart de finale. C'était la première fois dans l'histoire du tennis de table algérien.
Alors, comment vous situez donc le tennis de table algérien en termes de moyens par rapport à l'Égypte ou les Nigeria donc, qui occupent les premières places?
Donc, le tennis algérien est un sport récent vu la création de la Fédération algérienne en 1977. Par rapport à nos adversaires, Égypte, la fédération est créée en 1934. Ils ont organisé plusieurs compétitions internationales. Ils ont organisé le championnat du monde en 1938. Donc, ils ont une tradition, ils ont une coutume, ils ont une culture du tennis de table. Et ils ont plus de moyens que nous. Le Nigeria, c'est réciproque aussi, ils ont des moyens. On a pu rivaliser avec ces deux nations de tennis de table et nous sommes actuellement parmi les meilleures nations de tennis de table au continent africain.
Alors, à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, quelle est donc la politique de la fédération pour donner les meilleures chances aux talents nationaux? Et est-ce que vous faites de la prospection parmi les franco-algériens?
On a une tradition dans la participation olympique. Notre objectif, c'est une ou deux qualifications dans les deux sexes pour les JO 2024. Et on a beaucoup de chance d'être parmi les meilleures nations et continents africains qualifiés pour les JO 2024.
Ça fait depuis longtemps qu'on fait la prospection, la détection des jeunes talents résidant à l'étranger. Dans l'équipe nationale, depuis longtemps, les 30 à 40% de nos effectifs évoluent à l'étranger. Étrangers, à savoir Mehdi Bouloussa qui est résident en France et dans un club de haut niveau pro A en France. Donc c'est une stratégie de la fédération, il y a une politique de prospecter. Aussi on a nommé dernièrement un représentant algérien qui réside en France pour le suivi des athlètes, la préparation des athlètes, la prospection, la détection des jeunes talents résidant en France pour une éventuelle intégration en équipe nationale d'Algérie.
Chérif Derkaoui, le DTN de la Fédération algérienne de tennis de table, prochaine échéance importante en individuel dans la perspective des Jeux de Paris, les championnats du monde 2023 en Afrique du Sud. Mais dès la fin du mois, se tiendront les mondiaux par équipe à Chengdu en Chine. Un petit point dans quelques instants sur la finale messieurs de l'US Open de tennis entre Carlos Alcaraz, l'Espagnol, et le Norvégien Casper Ruud. 1-7 partout, 6-4 pour Alcaraz dans la première manche, 6-2 pour Casper Ruud dans la seconde, et Alcaraz mène 2-0 dans la troisième. Le Grand Prix de Formule 1 d'Italie à Monza, remporté pour ne pas changer, tient par Max Verstappen. Malgré un départ au 7e rang, le champion du monde néerlandais a décroché une 5e victoire d'affilée en devançant le monégasque Charles Leclerc, pilote Ferrari, pourtant parti en pole position sur les terres de la Scuderia, et la Mercedes du Britannique George Russell. Au classement du championnat du monde des pilotes, Verstappen a déjà pratiquement son 2e titre consécutif en poche avec 116 points d'avance sur Charles Leclerc à 6 courses de la fin de la saison. L'Eurobasket masculin, l'équipe de France affrontera finalement l'Italie en quart de finale mercredi à Berlin. En 8e, les Italiens ont réalisé l'exploit d'éliminer la Serbie, pourtant emmenée par la star de la NBA, Nikola Jokic, 94 à 86. Hier, les Bleus s'étaient miraculeusement qualifiés en sortant la Turquie, 87 à 86 après prolongation. Et puis la Coupe du monde de rugby à 7 en Afrique du Sud. Chez les hommes, victoire finale des Fidji sur la Nouvelle-Zélande, 29 à 12. Victoire des Australiennes chez les dames face aux Néo-Zélandaises, 24-22. L'équipe de France, vice-championne olympique à Tokyo, a pris la médaille de bronze. C'est l'heure justement de faire la passe à Loïc Bussière pour 24 ans en France. Mondial Sport, c'est terminé. Merci Valentin Venner et Laurent Philippe. 7 000.